The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, mercredi sur deux sur Radio G. Salut les gars.
Salut à tout le monde.
Salut Seb, salut Pablo, salut Romain, l'équipe est au complet.
Yes.
Ça y est, enfin. C'est une belle année à tout le monde qu'on vous re-souhaite.
Oui, et donc ce soir, belle année, oui, tout à fait.
Comme d'habitude, on parle de musique, de cinéma, de séries, de bande dessinée, tout ce qu'on aime.
Voilà.
Et on démarre avec une découverte musicale.
Et alors, c'est
alors,
quoi
ouais,
donc
t'en as parlé la semaine dernière. Non, il y a deux semaines, il y a 15 jours. Tu parlais d'un groupe que tu avais découvert au Hellfest.
Ouais, Grandma's Ashes, un groupe français composé de trois femmes qui font une musique rock bien sympathique.
Eh ben, on écoute ça sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le bon. Et c'est parti. Et c'est parti.
C'est bientôt parti.
Mais c'est parti là.
Ah bon.
Je fais une transition mais mortelle.
Oh, magistre.
Pas mal hein.
C'est ouais, ça, un mashup. Ah c'est sympa.
Oh,
Grand Masachis dans Bande Geek Mafia. Ça vous a plu?
C'est pas mal, c'est cool.
Ouais, c'est sympa.
Super groupe, je vous conseille.
Ouais, ouais.
On commence tout gentiment, finalement.
Tout de suite, le cinéma.
Allez.
Romain, à toi.
Ah ouais?
La flûte.
Tutulu. Au maximum.
Tout donné, Romain.
Oh, mais merci.
je reviens en forme.
Ton film comme
un... Regardez, tout de suite, je suis en train de faire un super montage. Alors, maintenant, on va parler d'un film. Excusez-moi, je sais, tout est en direct et tout est fait à la main. Vous avez entendu le générique à la bouche.
C'est ça.
Le montage à la main, tout va bien.
C'est que de l'artisanal.
C'est de l'artisanal. C'est une construction artisanale.
On aime.
C'est ça.
Exactement.
Alors, je vais vous parler du film Making Of, qui vient de sortir au cinéma. Il est en salle. Il est sorti le 10 janvier. C'est une comédie française avec Cédric Kahn. Alors Cédric Kahn, c'est un réalisateur français qui a fait beaucoup de films, en particulier récemment Le Procès Goldman, donc dans un complètement autre
style différent.
Dans un style complètement différent avec Denis Podalydès, Jonathan Cohen. Alors on y allait avec Florence en se disant on va se marrer, il y a Jonathan Cohen, Denis Podalydès, comédie française, Making Of, c'est donc sur le tournage d'un film, c'est un film qui raconte le tournage d'un film.
Mise en abîme.
Mise en abîme, joli. Il a des références.
On applaudit bien fort.
Alors, c'est l'histoire de Simon. Simon, c'est le réalisateur. Il est aguerri, hein. Il est réputé. Il débute le tournage d'un film qui raconte le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Donc, il y a quand même une dimension sociale dans ce film. Mais entre les magouilles de son producteur, alors qui est joué par Xavier Beauvois, qui est excellent, des acteurs incontrôlables, genre Jonathan Cohen, qui est la star du film, et des techniciens qui sont à cran, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être payés, parce que les conditions de tournage sont difficiles, eh bien, le réalisateur, il est vite dépassé par les événements. Donc, c'est le côté comique de l'histoire. Sauf que, petit à petit, il est abandonné par ses financiers, et il doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Et là, le film, qui, au départ, est une vraie comédie, va devenir un film plus intéressant, finalement, avec une dimension sociale, avec du fond, un peu les comédies anglaises, vous voyez Voilà, ça reste drôle, mais il y a une histoire, il y a
de la profondeur.
Il y a de la profondeur, oui. C'est pas idiot. Et donc, le tournage devient infernal, forcément. Et donc, le seul allié du réalisateur, c'est un jeune figurant à qui il a confié la réalisation du Making Of.
D'où le nom du film.
Donc voilà, honnêtement, c'était vraiment sympa. En fait, donc déjà, nous on aime bien Jonathan Cohen. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, donc on peut s'en lasser, mais il est bon. Voilà, dans l'acteur qui en fait trop, qui est un peu le melon, qui a de l'ego, ça lui va très bien.
Ouais.
Denis Podalydès, il est plus en subtilité comme d'habitude, il est plus subtil comme d'habitude. Donc voilà, donc c'est un film dans le film, très bien. C'est assez courant finalement, il y a beaucoup de films, il y en a eu plusieurs des films qui racontent l'histoire du 7e art ou le tournage d'un film. Mais en fait, il y a ce conflit social, il y a le problème de production. Vous voyez, il y a des désaccords sur le scénario, ça c'est hyper intéressant. En fait, comment on se met d'accord sur, par exemple, là, sur la fin du film. Est-ce que ça doit finir bien ou pas? Voilà. Et donc, c'est super intéressant, même d'un point de vue philosophique, c'est quelle morale on veut pour ce film,
Bien sûr.
Voilà. Voilà. Moi, je trouve que Cédric Kahn, il confirme sa forme, là, parce qu'après le film sur Pierre Goldman, hein, Procès Goldman. Voilà, qui était quand même un bon film.
Ouais, qui a eu une énorme critique positive du public et des critiques. En fait.
Et là, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est quand même super intéressant. Alors, dans ce genre de film, il y a La Nuit américaine de Truffaut qui raconte aussi un tournage. Il y a Ça tourne à Manhattan, un film américain super drôle aussi. Il y a un film coréen qui raconte aussi qui est sorti récemment.
Il y avait Terry Gilliam aussi.
Terry Gilliam, enfin voilà. Donc ouais. ça nous rappelle. Plusieurs films, mais là ça fait du bien, c'est frais, voilà.
Et avec un peu de fond.
Avec un peu de fond.
Donc que demande le peuple, ça tombe très bien.
Exactement. Du pain, du jeu et du cirque. Non.
Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est sympa, c'est à découvrir.
Et puis il faut signaler actuellement qu'il y a aussi Festival Premier Plan.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il y a il y avait Ken Loach qui était l'invité d'honneur et malheureusement il est tombé malade. Un petit peu avant le festival, bon, il est assez âgé hein, quand même, Ken Loach, parce que tu parlais de comédie, mais justement hier soir, et ils ont passé la Part des Anges, qui est une de ces comédies phares et justement très sociales aussi.
Sur le whisky.
Exactement. Et donc, voilà, c'est l'occasion de se refaire une rétrospective Ken Loach et ou de découvrir ce réalisateur si vous connaissez pas. Et puis, bon, toujours les films en compétition de danger, quoi.
Merci Pablo.
Merci à toi.
Un petit peu de musique.
Eh bien oui.
On écoute The Kills avec LAX dans Bande Geek Mafia.
Allez, sur Radio G, 101.5 Radio Geek Mafia.
The Kills avec LAX dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Et c'était bien chouette. Ah, la cantina.
Hey Seb, ouais, c'est à toi, la BD.
Ouais. La BD. Alors, deux bandes dessinées pour commencer cette année. Alors, tout d'abord, de Kid Toussaint et de Tristan Josse, De l'autre côté du mur, aux éditions Grand Angle. Bâtissez un mur et l'homme passera à sa guise. Telle est la phrase qui annonce le quatrième de couverture. 1961, Conrad vit de contrebande dans toute l'Europe au mépris du rideau de fer. Julius est un passeur et fait de fréquents allers-retours entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ludwig a quitté l'Est le premier jour qui a suivi l'édification du mur. Puis il est revenu, puis il est reparti. Quant à Anna, elle passe, elle aussi, d'Est en Ouest, à comme bon lui semble, empruntant des déguisements et des faux papiers de plus en plus audacieux. Alors que les autorités renforcent les dispositifs de défense du mur, les quatre passe-murailles solitaires sont réunis pour une mission bien précise, organiser une évasion d'envergure d'habitants de Berlin-Est.
Wow.
Donc voilà, on est plongé au cœur de la guerre froide. On est plongé cette fois-ci dans Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et donc on a une histoire qui est truculente, savoureuse et qui est géniale. Et puis en même temps, une petite série policière, quoi, une petite aventure policière aussi assez sympathique.
D'accord, mais quand tu dis truculent avec la guerre froide, je vois pas trop le rapport.
Bah, truculent.
Ça m'intéresse. Truculent. Développe un peu.
Alors je vais développer truculent parce qu'on a des personnages qui sont un petit peu particuliers.
Ah.
Donc voilà. Ils sont particuliers, ils ont une histoire qui est un petit peu particulière, mais je peux pas trop.
Ah, c'est dommage, on a envie de savoir.
Bah oui, bah
c'est bien, tu nous donnes envie de le lire.
Je veux dire de forte personnalité ou une histoire chargée, quoi, lourde.
Les deux.
Ah, ok.
Les deux, mon général. Mais je ne peux pas trop en dire parce que là, justement, c'est tout. Le sel.
De cette histoire.
De cette histoire, de l'autre côté du
mur. Il est fort pour nous donner envie.
Ah, il nous allèche.
Ah, oui.
Nous allèche. Nous tease en anglais.
Ouais,
c'est ça.
Alors,
il nous titille. Il nous titille.
Et je vends bien le produit, hein, quand même. Hein.
Bon, les gars, on va retrouver un peu de sérieux. Parce que là, cette BD, elle est géniale.
La deuxième BD. Là, c'est un sujet quand même un petit peu plus complexe. Exact. Michel Kishka, deuxième génération. Ce que je n'ai pas dit à mon père. Ouais. Deuxième génération n'est pas un règlement de compte avec l'histoire. C'est un récit autobiographique à travers lequel Michel Kishka retrace les instantanés décisifs d'une enfance, d'une jeunesse et d'une vie passée dans l'ombre de la Shoah. Du plat pays à la terre promise, entre cauchemars, souvenirs drôles, moments joyeux et actes de délivrance. Célèbre auteur israélien et caricaturiste majeur, Kishka n'est pas seulement un fervent partisan de la paix au Proche-Orient, il est aussi le fils d'un homme qui fut l'unique survivant de la famille après la guerre. À 20 ans, après les camps, son père est revenu dans sa Belgique natale. Il y eut deux filles, deux garçons et un vécu si pesant que ses enfants n'ont eu cesse de vouloir s'en émanciper. Chacun à sa façon, un document unique et touchant, une histoire intime et poignante, un hommage inédit à la bande dessinée.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que moi, j'ai adoré cette BD.
Alors, elle est géniale. Je dirais qu'on retrouve, parce que finalement, c'est exactement le même sujet que Maos.
Oui,
d'accord. C'est exactement pareil.
Mais en Belgique.
Ouais. En Belgique, moi, je trouve qu'il y a, plein d'humour aussi dans la manière
c'est
de.
C'est vrai que c'est pas triste.
C'est pas triste.
Non.
C'est pas triste. Même les moments tristes
c'est
ne sont
fort,
pas tristes.
C'est fort, c'est émouvant, ouais. Mais c'est pas triste.
Alors moi, cette bande dessinée, je l'ai découverte tout simplement parce que durant les vacances de Noël, je suis tombé sur le film qui a été donc une adaptation justement de cette bande dessinée qui s'appelle Les Secrets de mon père. Mmh. Donc voilà, donc ça, j'avais trouvé ça déjà génial, ce film. Et puis du coup, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Et donc je suis tombé sur la bande dessinée et en lisant la bande dessinée, puisque dans le film, il le dit clairement hein, que le film est inspiré de la bande dessinée. On a vraiment une adaptation aussi, mais qui n'est pas tout à fait fidèle. Des éléments qui changent.
Oui,
forcément. On peut pas non plus, autrement, là, ça va pleurer dans les chaumières toutes les deux minutes, hein, comme on peut dire. Et par contre, on garde toujours cette fraîcheur. Et puis ce côté humour avec un sujet qui est lourd aussi en même temps, qui est pesant, et on comprend bien aussi en même temps que pour ces enfants, donc cette deuxième génération de ceux qui ont survécu, c'est compliqué quoi pour eux. C'est extrêmement compliqué.
En fait, c'est ça. On voit tout le poids de la mémoire en fait. Sur cette famille.
Ouais. Tout le poids de la mémoire et tout le poids de ce qui n'est de ce qui n'est pas dit. Voilà, c'est juste
carrément. Souvent par pudeur ou par parce que on fait référence à des souvenirs traumatiques.
Alors par pudeur, oui effectivement, mais c'est aussi en même temps pour protéger. Et là, c'est ce qui il finit par comprendre finalement Michel Kishka sur la fin. C'est aussi la volonté du père de protéger sa famille de ses horreurs.
Ouais.
Et c'est assez paradoxal parce que de l'autre côté, il s'ouvre et il parle à des inconnus. Mais par contre, il dit rien à sa famille.
Ouais, moi, ce que je trouve très drôle, c'est l'humour du père, justement, qui a vécu les camps et qui dit, ça commence comme ça, quasiment. Hein. Ils sont à table et puis il dit à ses enfants, cette soupe, elle me rappelle Auschwitz. Vous savez pourquoi? Alors les enfants, ils disent, non, papa. Ben, parce que là-bas, on n'en avait pas.
Il y a plein de petits points d'humour comme ça. Quoi,
ça donne le temps. Et tu disais, l'auteur est super engagé et c'est vrai que c'est un peu dans l'actualité. Quoi.
C'est carrément dans l'actualité et je pense aussi en même temps qu'il faudrait peut-être se replonger aussi dans l'histoire pour éviter des choses
Voilà. Un peu simple.
On devrait les mettre au programme, ces livres-là.
Oui.
Oui, oui, mais il y a des enseignants qui étudient hein, ces BD, ces bouquins.
Je pense que ça pourrait être vraiment.
Ah oui, oui, non. Là,
en lettres histoire.
En lettres histoire, bah oui, mais bon.
Oui, c'est parce qu'on peut faire le lien là, entre la BD et l'histoire, c'est facile.
C'est bien. Qui nous rappelle, donc voilà. Les deux titres.
Alors, les deux titres. Donc, de Kit Toussaint, Tristan Josse, De l'autre côté du mur aux éditions Grand Angle. Et donc, Michel Kishka, deuxième génération, Ce que je n'ai pas dit à mon père aux éditions Dargaud.
Merci Seb.
Et voilà. Et toi Seb, t'as
petite pause musicale.
T'as un petit roman après à nous.
J'ai un petit roman, mais vite fait.
Trop bien.
Ouais. Guerre et paix.
Est-ce que j'ai envie d'écouter
Ah.
Metallica.
Ah. Sur Radio Chance.
Metallica avec Lux Eterna dans Band Geek Mafia. Petit hommage à Motorhead.
Ouais, clairement.
Ah, ça fait du bien.
Ah, ça nettoie les cages à miel.
Je m'y attendais.
Ça nettoie les cages à miel. J'adore.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Alors, je voulais vous parler très très rapidement d'un livre de Cécile Coulon, La langue des choses cachées. Alors, Cécile Coulon, c'est une jeune autrice française qui écrit des romans, mais aussi de la poésie. Et elle commence à être un peu connue. Hein, son dernier recueil de poésie, Les Ronces, a eu un énorme succès. Elle a écrit plusieurs romans. Elle a commencé très jeune. Hein. Et là, elle vient de sortir un roman qui s'appelle donc La langue des choses cachées.
Très beau titre.
Ouais, c'est très très beau et c'est très mystérieux, vous allez voir. Et d'ailleurs, après je vous parlerai d'une série qui elle aussi est mystérieuse, donc on reste dans le thème du mystère. Alors, je vous résume un petit peu le bouquin, enfin le début en tout cas du bouquin. On est à la tombée du jour et c'est un jeune guérisseur qui se rend dans un village reculé. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces de ton passage, il doit obéir toujours à sa mère, sauf cette nuit-là.
Mm-hmm. » Ouais. C'est très en lien avec la boîte de chocolat.
C'est pour ça que j'ai mis le jingle sur les boîtes de chocolat. Donc voilà, Cécile Coulon, elle explore dans ce roman des thèmes universels. On va dire la force poétique de la nature, voilà vraiment. La noirceur des hommes, beaucoup aussi dans ce livre. Et c'est elle qui a écrit donc Une bête au paradis, qui a eu un prix. Je vous le conseille aussi. Et puis ce recueil Les ronces là. Okay. Et donc là, dans ce livre, la langue des choses cachées, ses talents de romancière et de poétesse se mêlent en fait dans une œuvre littéraire qui est assez exceptionnelle. Parce que je peux pas vous dire si c'est un roman. J'ai dit un roman, mais c'est aussi un conte. Vous voyez.
Ouais.
C'est pas très clair au niveau du genre. Et ça, c'est hyper intéressant. Mmh. C'est la poésie, c'est le roman et c'est le conte en même temps en fait. Voilà.
Trop bien.
Et c'est très très bien écrit. C'est très facile à lire en plus, c'est une écriture simple mais très belle, très très limpide, voilà. Et l'histoire est extrêmement mystérieuse. Qui est ce guérisseur? Pourquoi sa mère l'a-t-elle envoyé dans ce village reculé? Que va-t-il se passer? Démons sont-ils cachés derrière la porte?
Normalement pour guérir, si c'est un guérisseur au départ.
Oui, mais est-ce vraiment un guérisseur? Est-ce qu'il ne cache pas bien son jeu lui aussi? En fait, personne n'est vraiment celui qu'on croit dans cette histoire et c'est tout l'intérêt de ce livre. Voilà. Donc je voulais juste vous en parler très très vite. C'est un petit bouquin, ça se lit très vite.
Ouais. Il est pas mal aussi pour donner envie.
Parce que c'est très court, ça fait 134 pages.
Voilà. Oui.
Et c'est vraiment génial, ça vient de sortir.
Joli récit là, nous as donné envie là.
C'est si cool, j'espère.
Ouais.
Si vous avez envie de lire, n'hésitez pas, foncez, c'est pas cher et c'est de qualité.
Bon. Tu peux rappeler le titre?
La langue des choses cachées.
Yes. Ok, maison d'édition éventuellement.
C'est chez l'Iconoclaste, petite maison d'édition qui fait des formats poche, pas très cher et de qualité.
Ok,
merci.
Eh bien, il vous en prie.
Il vous en prie. Hein.
Et c'est parti! À toi, Pablo.
Alors, moi, je vais vous parler d'une série, un spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon, donc créé par David Zabel. C'est le spin-off sorti en 2023, disponible sur Paramount+, ou ailleurs. Si vous aimez le personnage de Daryl, vous aurez plaisir à suivre ses mésaventures, mais aussi à creuser un peu plus sa psychologie. Mais pas trop quand même, car le bougre est un peu taiseux. On le sait bien, on le connaît. C'est un taiseux au grand cœur, certes. Il y aura donc de la fraternité, de l'amitié et peut-être même du flirt. Oh. Mais c'est surtout un sacré bagarreur, donc il y aura de l'action. Un spin-off plutôt réussi selon moi. Synopsis. À la fin de la saison 11 de The Walking Dead, c'est vrai que interminable, Daryl Dixon a décidé de partir à la recherche de Rick, qui a disparu, et de Michonne, qui est partie à sa recherche. Là, on le retrouve en France. Comment est-ce possible? À l'épisode 1, Daryl, interprété par Norman Reedus, échoue sur une plage française suite à une blessure et à une mauvaise rencontre. Il perd connaissance et se réveille dans une abbaye. Il fait la connaissance de Laurent, un jeune orphelin qui est considéré comme le messie par les sœurs de l'abbaye, car celui-ci aurait prédit la venue de Daryl. Suite à l'attaque de l'abbaye et la mort de plusieurs nonnes, Daryl accepte à contre-cœur de protéger et d'escorter Laurent jusqu'à Paris afin de lui trouver un lieu sûr. Isabelle, interprétée par Clémence Poésy, la nonne qui l'accompagne dans son voyage, lui permet de l'accompagner ensuite jusqu'au Havre afin de trouver un bateau qui le ramènera aux États-Unis. Alors, attendez-vous à voir du pays. On part du pont du Gard, on va faire un tour dans les Pyrénées du côté de Lourdes, puis on remonte doucement vers Paris, pour ensuite atteindre le Havre, le Mont-Saint-Michel et les plages du débarquement de Normandie. On s'enfonce dans les catacombes de la capitale et vu le nombre de crades, là on se dit quand même que l'apocalypse avait déjà eu lieu à une certaine époque. Hein. Et alors, on passe même, alors les gars, on passe même, les geeks, on passe à Angers.
Ah, c'est
ça. Ah ouais, alors ça c'est intéressant. Dans l'épisode 3, que j'ai trouvé le plus réussi, on ira jusqu'au grand théâtre, un grand théâtre post-apocalyptique zombie pour une scène mémorable.
Donc, voilà. Une petite question quand même. Il est arrivé par où? Parce que là, si tu dis, il a été retrouvé sur la côte à côté d'une abbaye, mais quand on fait, là, quand tu fais le parcours, il est pas doué en géographie, hein, quand même. Hein.
Non, mais en fait, alors, il passe assez vite sur des zones intermédiaires de la Dordogne, du Massif central.
Uber.
Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, passage à Angers, avant d'aller, bah, ils ont des hésitations, puis il va passer à Angers, puis après, du coup, on se retrouve à Paris, avant la Normandie, ce qui peut paraître logique, mais c'est vrai
oui.
que...
Parce que quand t'es en Normandie, t'es pas encore...
Ouais, non, non,
t'as encore un peu de marge. Hein,
mais complètement, et puis surtout, ils redescendent. Mais bon, voilà.
Oh là là.
Ouais, alors, pas doué du tout en orientation, et zéro point.
On visite la France.
Est-ce qu'il va à Saint-Dié?
C'est ça.
Ou à Blois.
Ou à Nancy, voilà, la place Stanislas.
Bon, c'est un clin d'œil.
Alors, justement, on va en parler un peu. C'est frappant à ce propos de voir ce que deviendrait notre cher patrimoine après une telle catastrophe. Tout ressemble à des ruines envahies par la végétation. Tout est sale et plus grisâtre. Les tableaux du Louvre et d'Orsay sont accrochés dans des squats délabrés. Mais la puissance des monuments et des œuvres demeure même au milieu des ténèbres. D'ailleurs, l'esthétique est soignée dans la série. Une belle image de la décadence, à vrai dire. La France est gouvernée par Marion Genet, interprétée par Anne Charrier. Une dictatrice qui est cruelle, qui contrôle les ports. Une Marion qui pourrait faire penser d'ailleurs à une autre... avec un mauvais esprit, pardon.
Une Marine.
Voilà, non, une Marion.
Non, une Marion aussi.
Une autre Marion, mais bon. Mais alors, surtout, il y a Clémence Poésie.
Ah.
Vous saviez, Fleur de la Cour dans Harry Potter, dans En Thérapie, on la retrouve aussi dans Sambre, dont tu as parlé il y a 15 jours dans l'épisode 4, et qui joue vraiment merveilleusement bien, qui est toute de délicatesse. C'est vraiment un beau contrepoint de délicatesse avec Daryl, plus brute de décoffrage. Hein. Elle interprète une ancienne voleuse et kleptomane parisienne devenue bonne sœur dans une abbaye du Sud-Ouest après l'effondrement. On évite presque tous les clichés attendus des Américains sur les Français. Je dis bien presque, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais bon, ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'avoue avoir eu peur au départ de croiser des zombies en béret avec des baguettes et du camembert sous le bras qui auraient écouté Edith Piaf. Non, ça va. On y voit plutôt un remake de l'Occupation et de la Résistance sur fond encore plus ténébreux. Évidemment, c'est Daryl la vedette. Pour en parler, voici ce qu'en dit l'acteur lui-même, Norman Reedus. Daryl est un genre de grumpy cat, bourru à l'extérieur, mais tout miaou miaou à l'intérieur.
Il est tout miaou miaou,
miaou, miaou, miaou, miaou à l'intérieur, vous voyez ça. Il parle par petites phrases, parfois assassines d'ailleurs, mais avec un humour sarcastique que j'aime bien, et dont il n'use qu'envers les gens qu'il apprécie. Les autres, il leur éclate la tête. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un Américain, limite plus Américain que Daryl, tu meurs, hein. Comme Daryl, qu'est-ce que cet Américain vient faire à Paris en pleine apocalypse, limite à se balader sur la Seine en péniche? Que venait-il faire dans cette galère, me demanderiez-vous. Comment s'est-il retrouvé à traverser l'Atlantique en bateau? Réponse à la saison 2, bien sûr. Alors, pas forcément besoin d'avoir vu toutes les saisons de The Walking Dead pour s'attaquer à ce spin-off.
Ah non, parce qu'il y en a 11 quand même.
Voilà, c'est ça. Donc il est suffisamment bien en lui-même, assez complet. The Walking Dead, Daryl Dixon, donc les gars, sur Paramount Plus ou ailleurs, merci de votre écoute.
Merci Pablo.
Merci Pablo.
C'est une petite reprise de Noir Désir, ça.
On nous portera.
Bien joué.
Ah, un peu de musique, alors.
Un peu de douceur dans ce monde de brut.
Moi, je voudrais vous faire écouter un petit truc avant qu'on écoute vos musiques, les gars. Hein, bien sûr, Black Pumas, tout ça, c'est prévu. Hein. Moi, j'adore Adi Oasis, vous le savez.
Ouais. Vous avez partagé ça, c'est très bien.
J'ai partagé ça. Et j'avais envie de partager avec les auditeurs parce que ça me fait penser un peu au Black Pumas, d'ailleurs. C'est pour ça que je voudrais vous en parler tout de suite.
Trop
bien. Vous faire écouter.
Allez.
C'est Serena
sur le Mickey Mafia.
5.5 Radio.
bon, la soul funk.
Ouais, c'est sympa. Excellent.
Adi Oasis, Serena, dans Bandit Mafia.
Ça, moi, ça, Radio Café. Et c'est chaud ce soir.
Si se lâche complètement.
Mais d'ailleurs,
il y a des gens qui écoutent, c'est la musique.
Mais d'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire parce que c'est vrai qu'on en discutait en off. On se disait que moi, je suis hyper content là, les geeks. J'ai enfin pu commencer à regarder la série The Mandalorian.
Ouais.
Et non, alors, j'ai loupé un truc. The Mandalorian.
Parce que en fait, j'allais envoyer le jingle. C'est pour
désolé. Two Seconds de Mandalorian est vraiment, c'est excellent et il faut qu'on en parle dans 15 jours. Voilà.
Super.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
Stupéflip. Alors, je vais vous parler d'une série sur Arte TV qui s'appelle Mystery Road, les origines. Mm-hmm. En fait, c'est la saison 3 de la série Mystery Road. Alors, je peux vous dire tout de suite que j'ai pas vu les deux premières saisons. J'ai attaqué directement la saison 3 puisque ce sont les origines du personnage qu'on va suivre pendant 3 saisons. Alors, c'est aussi parce que j'avais complètement loupé les deux premières saisons que je suis tombé directement sur la troisième et que c'est gratuit sur Arte. Donc, c'est vachement bien. Si vous avez aimé True Detective, la première saison, vous allez aimer Mystery Road, les origines. Pablo.
Ah yes.
Petit clin d'œil pour toi.
Ouais, j'adore.
Alors pourquoi? Parce qu'on est en 1999, donc vous voyez, un petit peu dans le passé, comme dans True Detective, en Australie, cette fois-ci, pas aux États-Unis. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'on voit des paysages qu'on ne voit pas du tout d'habitude, surtout qu'on est dans l'ouest de l'Australie, donc pas du tout du côté de Sydney ou etc. Ou de Melbourne, on est vraiment dans l'ouest.
On n'est pas dans les vagues.
Non, pas du tout. On est plutôt dans le désert avec les aborigènes et c'est très important. Alors, c'est l'histoire d'un jeune officier aborigène, justement, qui s'appelle Jess Wan et qui revient dans sa ville natale, qui s'appelle Jardine, pour rejoindre la police locale. Voilà. Donc, c'est vraiment le début de sa carrière de policier qu'on va suivre pendant 3 saisons. Mais là, on est au tout début. C'est sa première enquête. Il retrouve donc son père, Jack, et Marie, la femme qui va changer sa vie. Mystery Road, ça porte très bien son nom, hein, la route mystérieuse.
Encore un mystère.
Ouais, et oh oui, explore comment une mort tragique, un amour épique et la réalité brutale de la vie d'un policier à cheval entre deux mondes vont former le moule dont va émerger le détective Jess Wan. Ouais. Oh non, mais je vous jure que c'est hyper bien. Enfin, moi, alors, il faut aimer les séries un peu lentes.
Ouais.
Voilà.
Un peu contemplative.
Il faut aimer un peu. Il faut aimer les beaux paysages, il faut aimer les mystères surtout, hein, pour suivre cette histoire. Mais c'est bien ficelé en fait, parce que c'est assez rare quand même, cette ambiance quoi, aride, poussiéreuse. C'est l'outback, ils appellent ça en Australie. Ouais. Mmh. Et c'est bien rendu, les acteurs sont à la hauteur. On se laisse prendre par l'intrigue, hein. On a regardé ça. Et c'est un bon préquel du coup, bien tordu, agréable à regarder. C'est un peu long à démarrer forcément, mais ça tient la route par la suite en fait. Faut pas se décourager, il n'y a que 6 épisodes. Hein. Il n'y a que 6 épisodes.
Ça a l'air super.
Donc, ouais, moi j'ai adoré cette série tournée en Australie. Et l'acteur qui joue le rôle principal, il est vraiment bien, il est sobre, il est juste. Voilà, donc voilà. Juste un petit plaisir. Mystery Road, les origines sur Arte, voilà.
Et ça nous permet aussi en même temps de faire un coucou à notre...
À François.
Qui est à Melbourne.
Qui ne reviendra jamais. Il a bien raison. Il fait sa vie en Australie.
Donc après, tu dis qu'il y a deux saisons qui viennent avant. Et
le policier est beaucoup plus âgé.
Ouais. D'accord.
Qui est joué par un autre acteur.
Ah, ok. Ouais. Et là, on rentre plus dans une intrigue policière, quoi.
Voilà, plus classique. Okay. Là, c'est vraiment la première enquête de Jay Swan. Voilà.
Trop bien.
Et donc la découverte de toute cette ambiance, de toute cette population. Et bien sûr, il y a toute une histoire autour des aborigènes, de comment on a spoilé leur territoire. Voilà, bah, c'est ça aussi. Hein.
Ouais.
Comment on leur a volé leur richesse. Enfin, c'est hyper intéressant dans le fond. Là aussi, hein, ça fait réfléchir. Voilà. Mystery Road, les origines. Alors, Romain, un petit jingle, c'est parti.
Constant, bitches.
Alors les gars, c'est juste un petit très court article sur David Chase que vous connaissez puisqu'il est le réalisateur.
Les Sopranos.
Exactement.
Moi je dirais deuxième dans mon top des séries.
Ouais, il y a The Wire quand même, on dirait.
Ouais, mais moi il y a Breaking Bad. Breaking Bad.
Six Feet Under. Il y a aussi Twin Peaks aussi dans le top 5.
Ouais. The Office
bien sûr.
Bref,
toujours est-il que je trouve ça intéressant par rapport justement à comment dire, à l'industrie des séries aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas très positif, mais je vous donne le titre de l'article, c'est sur Première pour les citer. Pour le créateur des Sopranos, l'âge d'or des séries est fini. Oh. On me demande de baisser le niveau. Et donc c'est un article qui date du 16 hein, janvier, donc c'est pas très vieux. Et ça, et voilà, on a donc David Chase qui nous parle parce qu'en fait on l'interroge pour les 25 ans des Sopranos. Et on lui demande, bah, du coup, si c'est un événement joyeux, il dit non, on devrait plutôt vivre ça comme un enterrement. Parce que l'âge d'or des séries un peu intelligentes, des dramas un petit peu, aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose d'élitiste. Et aujourd'hui, en fait, le format, c'est fait pour, entre guillemets, quelque chose de rapide qui se consomme rapidement. Mais aussi, en présupposant que le spectateur est moins fin, quoi. Il faut, ouais. Et donc, je trouve ça intéressant, comme, son regard sur l'industrie des séries actuellement. Donc, voilà. L'article est court, mais voilà, voilà. Et puis on apprend aussi qu'il est sur une série où justement il est obligé de réécrire trois fois parce que on lui demande de baisser le niveau en fait. C'est trop. C'est vraiment
chaud.
C'est pour ça que je vous conseille de la lecture de cet article Première.
Je vais voir carrément.
Très court qui s'appelle Pour le créateur des Sopranos, l'âge d'or des séries est fini. On demande de baisser le niveau. Voilà.
Mais est-ce que c'est lié à l'arrivée de toutes ces plateformes?
Tout à fait.
Il faut produire.
Voilà, ouais, il fait allusion sans les mentionner, je crois, à Netflix et puis à HBO, en parlant de la publicité notamment, du modèle de fonctionnement qui fait que ils n'ont plus tout à fait la main et on leur demande de faire du rapide, du
moins bas de gamme.
Du bas de gamme, en tout cas, de déconsidérer intellectuellement le spectateur.
Eh bien, retourner au cinéma.
Tout à fait. Enfin, voilà. Bref.
Et c'est vrai que ces séries étaient magnifiques. Et plus, alors par contre, c'est l'occasion quand même de rappeler aussi que tu parlais d'Arte. Quasiment toutes les séries sur Arte sont incroyables.
Oui, elles sont super bien.
Vraiment super.
C'est très varié.
Ouais.
Bon, les gars, il reste un quart d'heure. Il faut qu'on parle de musique.
Yes.
Allons-y. Qui se lance?
Ah, Pablo. Vas-y, Pablo.
On va jouer.
Allez, on y va.
Allez, c'est parti.
Black Pumas. Alors, je vais vous présenter Black Pumas et leur dernier album qui s'appelle Chronicles of a Diamond, donc sorti en 2023. Les gars, les félins de la soul moderne sont de retour. Entre soul psychédélique, cœur gospel et rock électrique, le duo texan propose un nouvel opus assez différent du précédent album. Et donc, au départ, on a eu un petit LP Black Moon Rising, sorti en 2018, et puis Black Pumas, donc album éponyme, sorti en 2019, que j'avais personnellement adoré.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, c'était toi, Seb, qui me l'avais signalé, et un grand merci.
Parce que je n'écoute pas que du métal. J'aime aussi la soul et le funk.
Il faut se le dire. Il faut se le dire. Voilà. Donc, un album différent, certes, mais toujours aussi original, toujours aussi groove, parfois planant, comme la musique que vous entendez là actuellement.
Sympa.
Ouais. Donc, par exemple, la musique qu'on écoutait aussi il y a 15 jours, c'était More Than a Love Song, vous voyez, qui était juste excellente aussi. Il y en a tellement. Bref, Black Pumas, c'est un groupe américain du Texas, composé par le chanteur Eric Burton et le producteur guitariste Adrian Quesada. Un groupe qui puise son inspiration dans la soul des années 70. La voix d'Eric Burton est particulièrement remarquable par sa richesse, ses tonalités mordorées, cuivrées, sa nonchalance groovy et surtout ses aigus éclatants, clairs et brillants. Enfin, il m'espante à chaque fois. Pour Eric Burton, le chanteur des Black Pumas né à Austin aux États-Unis, au Texas, pardon, ouais.
C'est aux États-Unis.
Oui. C'est ça.
Ça va bien.
Écrire des chansons, c'est comme prier. C'est la philosophie qui infuse leur sublime nouvel album Chronicles of a Diamond. Peut-être que... Donc là, c'est exactement la musique qu'on est en train d'écouter.
C'est ça.
Alors, c'est un disque qui... Let's sail around the block 25 years dreaming like the diamond. Vous voyez ce que je veux dire quand il prie, quoi. C'est un disque qui sonne à l'ancienne, mais dans lequel il y a juste ce qu'il faut de modernité. La musique des Black Pumas est chaleureuse, sexy et réconfortante. Elle s'inscrit dans la pure tradition de la soul et du R&B américain. Elle en respecte les codes et le haut niveau d'exigence sans jamais tomber dans le simple exercice de style ou la nostalgie. Par moments, le groupe fait quelques incursions vers un son plus blues rock, électrique et un peu plus nerveux. Je cite Adrian Quesada qui parle du groupe. Sur le premier disque, mon objectif était de créer quelque chose qui paraisse moderne, mais sans utiliser de boucles de programmation ou de montage d'aucune sorte. Avec ce disque, Chronicles of a Diamond, nous avons rejeté toutes les règles et créé quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un album studio, mais qui capture également cette énergie folle qui se dégage du live. Donc Black Pumas, je vous le signale, sera en concert le 15 mars au Zénith de Paris. Allez-y. Donc Black Pumas, dernier album Chronicles of a Diamond. Voilà, merci de votre écoute. Là on écoute actuellement Angel.
In the sun, to the day, and leaving love, little angel.
Ouais, donc on écoutait Angel, et spécial dédicace à Sarah, Gabi et Maya. Mais ouais, il y a aussi un autre morceau qui est très très bon,
Sauvignon.
Oui, ça c'est très très bon.
On parle de vraiment de Sauvignon.
Voilà. Bon bah c'est très sympa en tout cas.
Écoutez les Black Pumas. Hein.
Écoutez les Black Pumas, c'est vraiment cool. Et vous allez kiffer et groover.
Merci Pablo.
Merci à vous. Eh bien,
on va laisser la parole à Romain.
On a perdu Seb.
Ah, t'inquiète pas.
Il faut que je boive un petit verre d'eau.
Pas de Sauvignon,
On continue dans la musique avec des choses qui.
Oh là là, il va très vite.
Ouais.
Tu voulais pas un petit jingle, toi ?
Ouais, si.
Un petit
jingle, alors. Ça te plaît.
Lâche comme tu veux.
Ouais, si, j'aime bien.
Non, mais on n'est pas obligé.
Constant, bitches ! Ah, ça me Le petit coup de fouet, ça me redonne un coup de fouet, justement. Alors, ce soir, deux petites choses que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est déjà un groupe que vous ne connaissez que trop bien, puisqu'il s'agit des Andy Warhols. Alors, vous connaissez sans doute. Et si vous ne connaissez pas, je parle pour les auditeurs, je vous invite à réécouter le classique Bohemian Like You. Hein. Vous allez écouter les premières notes et tout, et dire « Ah oui, je connais ». Ou alors Get Off, qui est vraiment un des meilleurs titres pour moi des Andy Warhols. Andy Warhols, c'est quoi? Eh ben, c'est un groupe américain qui vient de l'Oregon. Et qui a commencé, je crois, en 93 et dont le premier album a vu le jour en 95, figurez-vous. Et on va arriver là, en mars, à leur 10e album. Alors voilà le point commun avec l'artiste que je présenterai après. Et Vlatipa, les gars.
Vlatipa, alors mon petit monsieur, qu'est-ce qu'il y a?
Comme disent les jeunes. Vlatipa, que pour présenter, enfin, l'un des singles du prochain album, va se faire avec un artiste qu'on connaît bien aussi, puisqu'il s'agit de Frank Black, que l'on connaît des Pixies. Donc le titre, alors l'album en question qui sortira le 15 mars prochain s'appelle Rockmaker, et le titre que je vous propose, dont je vous propose d'écouter un petit bout, là s'appelle Dancing with Myself, que vous connaissez un peu, mais c'est Danzig.
Ouais, il y a un petit jeu de mots là.
Exactement. Donc je vous propose d'écouter un peu parce que c'est un peu sombre quand même. Ça ressemble pas au Andy Warhol classique.
Tu reconnais bien Frank Black.
Ouais, mais je sais pas, moi ça me donnait. Alors les Dandy Warhols, je connaissais évidemment il y a longtemps et j'étais pas forcément accro à ce qu'ils faisaient récemment. Mais là.
C'est excellent.
Ouais, mais là ça me donne bien envie d'écouter ce qu'ils vont faire le 15. Je reparlerai peut-être à l'occasion d'une autre chronique, ouais. Après avoir écouté l'album. Donc voilà, je vous présentais ça. Et j'ai appris, je vous le dis très vite, je bouscule le conducteur,
non,
et je surprends.
Pas du tout.
Non, en fait, il y a un truc qui m'a fait rire, je l'ai appris il y a peu, sur. Parce qu'on parlait de Frank Black, et donc si on parle de Frank Black, on parle des Pixies.
Bien sûr.
Et alors, il y a un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est vraie anecdote. Hein. Ils ont été embêtés les possesseurs d'iPhone qui voulaient se réveiller le matin avec une chanson des Pixies. Parce que vous connaissez, ouais. Si vous connaissez les Pixies, vous aimez bien forcément
Where is my mind.
Et en fait, véridique, il y a des tas de mecs qui ont été en retard parce que pour ceux qui connaissent la chanson, ça commence par une sorte de cri, ouais. Un peu de plainte. Ça fait, ouais. Et très vite, on entend stop.
Stop, ouais.
Et après la musique commence. Ouais. Et en fait, ça commence à peine, ça arrête le stop, le réveil des gars, et les mecs se réveillent jamais en fait.
Ah ok.
Voilà.
Excellent.
Et donc, voilà, ce truc m'a fait rire, donc c'était ouais, le cas de faire un clin d'œil.
Excellent.
Donc maintenant, un autre artiste qui n'a absolument rien à voir, qui est un artiste israélien. Alors le seul point commun effectivement avec les Dandy qui sortent un album en mars, c'est que là, on entend quelques notes. C'est Aviram. Il est sorti un album en mars aussi, mais de 2023. Donc je suis passé à côté. Et figurez-vous les gars qu'il y a très très peu de choses à trouver sur cet artiste. C'est vraiment opaque, mais j'aime vraiment vraiment beaucoup.
Comment
le style.
Comment t'as découvert ça?
J'ai dû le shazamer quelque, ouais. Part, hein, et clairement, j'aime vraiment. Je laisse écouter un petit peu évidemment après, mais le reste de l'album est vraiment dans cette veine-là. C'est un peu, c'est très différent. C'est des fois un peu folk, des fois ça fait penser un peu aux Beatles, des fois il y a un peu des sonorités 60, des années 60-70. Mmh. Ça tourne autour de chansons d'amour. C'est de la guitare parfois sèche. C'est vraiment bien sympa, et je voulais vous faire partager ça parce que franchement, on en trouve. Je trouve qu'il y a assez peu de matière justement à développer parce que c'est assez obscur, mais il gagne à être connu. Donc je vous laisse écouter un petit peu.
Aviram.
Ça, mais vraiment, je vous le dis comme ça, vous allez en voiture quelque part, vous avez une demi-heure, une heure, écoutez sur Deezer comme plateforme son album, c'est vraiment cool.
C'est chill.
Ouais, franchement, c'est vraiment sympa à écouter.
Ouais, vraiment super, merci.
Vous m'en direz de nouvelles.
Le titre,
c'est
«
All My Love's In Vain », ce qu'on m'a convient d'écouter.
Malheureusement, on va pas l'écouter en entier, non, parce qu'elle dure 4 minutes 35.
Ouais.
Et il reste à peine 3 minutes.
Ouh, le temps file complètement vite quand on est bien.
Mais alors, ouais. On va se mettre un petit jingle.
On a perdu nos esprits.
Hein, pas du tout.
Non, on les a retrouvés d'ailleurs.
Tout va bien.
Tout va bien.
Creature Shock Radio FM. Bon, donc on va se retrouver dans 15 jours. Et oui,
on a bien l'impression, les gars.
Ça a l'air d'être bien parti pour
nous. Et oui, c'était Bande Geek Mafia. Votre émission Info Culture, mercredi sur 2 sur Radio G. Merci Seb.
Merci Seb.
Merci Pablo.
Merci,
merci Romain.
Merci à vous, c'était cool.
Merci aux auditeurs, aux auditrices. Voilà. Restez à l'écoute de Radio G. On se quitte avec.
Where is my mind? On le citait, c'est pas le cas, c'est rigolo.
Forcément.
Bisous à tout le monde.
Alors si j'arrive à supprimer cette musique. Voilà, oui.
Quel talent.
C'est beau, il est magnifique, il est fort.
Écoutez ça. Salut.
Star.
Salut.
Ciao.
Alors on va être obligé de se le remettre. Vous voyez pas?
Ouais. Ah oui, si.
C'est une reprise.
Stop.